Radio Campus, il est 8h.
Au cœur du centre-ville, je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire. Je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel.
Nous sommes lundi matin et comme tous les premiers lundis du mois sur les ondes de Radio Campus 106,6, eh bien c'est l'heure de Tous Essentiels, l'émission du revenu de base présentée par Virginie. Bonjour Virginie, ça va bien ?
Salut Max, oui ça va. On vous propose pour le réveil une idée révolutionnaire.
Non.
Si. Et en plus on a droit aujourd'hui à 3 personnes.
Waouh.
Donc nous on a droit à d'accueillir sur notre table et on vous accueille aussi auprès de nos auditeurs, auditrices, Jeanne et Nougine. Bonjour.
Oui, essentiel.
Bonjour. Donc vous entendez la jeunesse de leur voix, ce sont des futures travailleuses qui viennent faire un stage ici et on essaye de les conditionner ou de les déconditionner, de les reconditionner. Je ne sais plus où on en est exactement, mais en tout cas, leur ouvrir des choses qui ne sont peut-être pas exactement dans les programmes à la fac. Comment vivre différemment ? Et on accueille pour ça Denis Consigny. Bonjour Denis.
Bonjour.
Alors, te présenter est un peu difficile parce que tu as fait plein de choses dans la vie. Nous, on s'est rencontrés au Mouvement français pour un revenu de base, ingénieur et en même temps... un peu polyvalente, tu as bossé dans les arts et métiers, dans l'innovation, tu as travaillé avec le médiateur de la République et je suis en train de dévorer ton dernier livre, parce que tu en as écrit même pour enfants, j'ai vu. Donc ton dernier livre qui s'appelle « Cher Boomer, il est temps de réparer nos erreurs ». Je le conseille, je le surconseille, il est drôle, poétique et super instructif. Donc voilà, maintenant que ta pub est faite, je t'accueille et je rajoute que tu es là au nom... de ta présidence, puisque tu es président de l'association intergénérationnelle du capital universel. C'est bien ça ?
C'est bien ça, oui. Oui.
Alors, pour commencer, on te fait passer à la moulinette de notre question rituelle. Imagine si tu avais reçu, alors aujourd'hui, tu ne vas pas nous parler d'un revenu de base mensuel comme on a un peu plus l'habitude de les présenter, mais plutôt d'un capital universel. Tu nous repréciseras tout ça. Donc, si j'ai bien compris, c'est donné au début de l'âge adulte.
Alors, le capital universel, oui, c'est une somme qui serait confiée aux jeunes qui en feront la demande, ça n'a rien d'obligatoire, par exemple à l'âge de 25 ans, et c'est une somme qui serait de 60 000 euros. Mais j'insiste sur le mot « confier », parce que ce serait en fait une création monétaire dédiée et elle prendrait la forme d'une avance d'hoirie ou avance sur héritage. En fait, je constate que les inégalités de revenus sont certes importantes dans la société française, mais que les inégalités de patrimoine sont beaucoup plus importantes. Et ma conviction, c'est que, paradoxalement, elles sont beaucoup plus faciles à lisser, ces inégalités de patrimoine. Et donc le concept qui est défendu par l'association Intergénération pour le capital universel, à la suite des travaux de Bruce Ackermann, de Bernard Berthelot et de Michel Rocard, entre autres, c'est de dire que la société française pourrait confier aux jeunes qui en font la demande un capital de départ qu'ils rembourseraient soit au moment où ils percevront eux-mêmes un héritage, et ça, ça arrivera, mais ça arrivera tard maintenant, parce qu'avec une espérance de vie moyenne à 85 ans, les gens héritent aujourd'hui alors qu'ils sont eux-mêmes à la retraite, ce qui fait qu'ils refont le toit de la résidence secondaire, mais ça ne fait pas fonctionner l'économie. Soit, s'ils ne reçoivent rien, ce serait déduit de ce qu'ils laisseront à leur descendance, mais comme ils auront posé plus tôt dans leur parcours de vie les premières pierres de leur patrimoine, ce patrimoine sera nettement plus important et du coup, cette restitution sera pratiquement indolore.
Ce que je te propose, Denis, d'abord, avant de rentrer dans les détails, puisque tu nous as spoilé un petit peu là, mais en tout cas, on est très teasé, comme disent. J'essaie d'avoir un vocabulaire jeune maintenant, parce qu'il y a des jeunes sur la table. Donc, maintenant que tu nous as alléchés, est-ce que tu peux juste répondre à cette question d'abord? Si toi, tu l'avais reçu, qu'est-ce que ça aurait changé pour toi?
À la fin de mes études, ça m'aurait vraiment rendu un grand service parce que. Il se trouve que quand j'ai terminé mes études d'ingénieur à Zébétier, j'avais créé une entreprise qui travaillait déjà dans l'énergie solaire, donc c'était un peu en avance de phase puisque c'était le tout début des années 80, et que cette entreprise avait eu une croissance relativement forte, ce qui nous avait obligés, j'avais fait ça avec deux camarades de promotion, à nous mettre entre les mains des business angels dont l'attitude n'a pas été vraiment angélique. Et comme on avait besoin d'argent pour financer la croissance, en fait, on s'est retrouvé avec chacun 1,5% du capital. Et du coup, on a perdu le contrôle de cette société. Et donc, si à l'époque, les dispositifs de mise à disposition d'une somme d'argent significative par avance voirie, par avance sur héritage avaient existé, je pense que mes deux camarades et moi l'aurions utilisé et que nous aurions pu être dans une situation plus confortable vis-à-vis des business angels et que probablement le devenir de cette société aurait été différent. Bon, c'est un cas particulier, mais je crois que c'est important parce que ma conviction est qu'il faut regarder les parcours de vie et que les distributions de revenus sous forme de revenus universels ou de capital doivent être orientés dans le sens de faciliter les parcours de vie de façon à ce que le plus grand nombre possible de citoyens soient des contributeurs nets aux finances publiques, non pas à l'instant T, on s'en fout, mais vie entière. Et aujourd'hui, on s'est tellement mal débrouillé que à peine 44% des citoyens français sont contributeurs nets vie entière. Et ça crée des dissensions et des problèmes dans la société. J'ai la conviction que si on s'organisait un peu mieux, on pourrait, en donnant aux gens les coups de pouce qui vont bien au moment qu'ils vont bien, on pourrait s'organiser de telle façon que 60 ou 70% d'entre nous soyons contributeurs nets aux finances publiques, vie entière, et ça irait dans le bon sens pour tout le monde.
Je rebondis vite fait, effectivement dans ton livre tu évoques une double ambition, mais on y reviendra après le témoignage de nos étudiantes, mais première c'est que chacun et chacune peut profiter de sa vie et en faire quelque chose d'agréable, parce qu'après tout on n'a qu'une vie, etc. Et en même temps que ce soit, quand tu as parlé de contributeur net, que ce soit quand même au bénéfice, entre guillemets, du collectif, pour que ce collectif puisse perdurer au-delà de nos vies individuelles. Donc on en reparlera, mais je voudrais questionner Jeanne et Nougine. Jeanne, est-ce que tu veux bien commencer?
Bon, oui.
Tu as 19 ans, donc là tu es vraiment dans le tout début d'une carrière. J'imagine que voilà, après les premiers choix d'orientation, etc., tu as commencé à un peu imaginer ta vie. Donc, imagine, déjà, est-ce que si on te propose comme ça 60 000 euros je veux dire, dans 5 ans, c'est ça, hein, Denis, à 25
oui.
ans?
En 6 ans pour elle.
Déjà, est-ce que tu l'accepterais ou est-ce que tu le demanderais?
Oui, probablement. En fait, moi, je pense que ça pourrait être une démarche très intéressante dans la réalisation de projets personnels ou professionnels. Bon, forcément, une somme comme ça, ça peut être vraiment utile, vraiment motivant aussi pour les jeunes, je pense. Bon, moi, effectivement, je suis encore un peu jeune, je suis en deuxième année de licence. Mais à la sortie des études, ça peut vraiment être quelque chose d'encourageant pour commencer des projets, pas forcément une entreprise, hein, mais même peut-être même dans tout ce qui est logement, et aussi pour gagner vraiment de l'indépendance. Je pense notamment là actuellement, moi comme j'ai encore que 19 ans, je dépends aussi beaucoup de mes parents au niveau financier. Pouvoir acquérir comme ça une somme de cette ampleur, ça pourrait vraiment être utile pour vraiment faire un bond en fait dans la vie d'adulte. Voilà.
Donc déjà pour gagner en autonomie.
Oui.
Et est-ce que tu as déjà un projet qui pourrait qui pourraient en bénéficier? Tu parles de logement ou
Bah, je pense que ça peut dépendre des gens. Moi, personnellement, je voudrais me rediriger vers le journalisme. Mais effectivement, bah, ça pourrait être utile, même par exemple, bon, j'imagine, hein, par exemple, si je veux fonder mon propre média ou quelque chose comme ça, ça pourrait être quelque chose, ça pourrait rendre plus tangible nos rêves en quelque sorte. Et même, je pense que si c'est quelque chose qui est plus accessible, plus facile, parce que y a aussi tout ce qui est démarche, on n'a pas forcément envie de rentrer là-dedans, on se dit c'est un peu trop compliqué, c'est pas à notre portée en tant que jeunes adultes, bah là, ça pourrait être quelque chose qui pourrait vraiment nous aider et nous dire, bah non, en fait, nous aussi, on en a le droit.
Et j'avoue que quand tu parles de ton rêve, ça pourrait rejoindre le mien aussi, d'avoir plus de médias indépendants, par exemple, je dis ça, sans référence aucune à l'actualité. Mais voilà, merci beaucoup en tout cas. Et donc toi, tu veux rebondir?
Par rapport à ça, très, très rapidement, donc je fais une remarque, malheureusement, le ticket d'entrée pour le contrôle des médias aujourd'hui est largement supérieur à 60 000 euros. La preuve, ce sont il y a un petit nombre de gens qui en prennent le contrôle et c'est vraiment inquiétant. Donc, très bien de travailler dans le sens de la diversité. Alors, pour les, il y a beaucoup d'étudiants qui font un prêt étudiant aujourd'hui. Si l'école dans laquelle ils sont est considérée comme sérieuse, ils l'obtiennent assez facilement, mais ça plombe le début de leur parcours économique parce que un prêt étudiant, ça se rembourse après impôt et ça diminue le pouvoir d'achat pour les premières années. Et donc, ce capital universel, justement, il a pour vocation de se substituer aux prêts étudiants pour ceux qui veulent prolonger un parcours d'études, mais ça peut être aussi une façon d'acheter un premier logement tôt dans son parcours de vie. Et ça, c'est très intéressant parce que pour un couple, 2 fois 60 000, ça fait 120 000 euros. Ça fait donc un apport tout à fait significatif. Et le reste à rembourser est inférieur à un loyer. Et du coup, prise en passant du dispositif, ça permettrait non pas de résoudre totalement le problème du logement, mais ce serait autrement plus efficace que le système actuel, où l'État donne des allocations logement aux locataires, dont les propriétaires, allocations logement que les propriétaires utilisent pour augmenter substantiellement les loyers, et pour acquérir eux-mêmes des logements avec des déductions fiscales. Et oui. Donc ce système d'aide au logement ne tient pas debout, montre toutes ses limites, et l'une des retombées face des allocations pour les jeunes, dotation en capital, ce serait justement au niveau du logement d'assainir vraiment la situation. Je précise quand même que ce ne serait pas un cadeau, c'est de l'argent confié, et qu'en contrepartie, il y aurait un acte notarié qui donc s'autoriserait à préempter sur les héritages reçus ou légués.
D'accord.
Mais quand on regarde sur l'aspect logement, les jeunes qui sont au bureau de l'association et avec lesquels j'ai évoqué cette éventualité, pour les deux tiers d'entre eux, l'utilisation ce serait de pouvoir acquérir plus tôt un premier logement, ce qui sécuriserait la suite de leur parcours.
Oui.
Mais il y a aussi l'aspect prêt étudiant. Ce serait éminemment préférable au système de prêt étudiant tel que pratiqué actuellement par les banques.
Je me souviens d'un jeune, bon, vu de mes 50 ans, évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont jeunes, mais un gars de 33 ans que j'ai rencontré à la manif du 1er mai et qui me disait qu'il était encore en train de rembourser son prêt étudiant et qu'évidemment, bah, ça avait un impact sur sa vie de famille. C'est quelque chose qui traîne plus longtemps qu'on pourrait le penser, quoi.
J'avais une
question. Tout à fait. Et il est d'ailleurs aberrant qu'il n'y ait pas une 377e niche fiscale qui exonère finalement, enfin, qui fasse que les prêts étudiants soient remboursables après impôt, et enfin, soient déductibles des sommes sur lesquelles les gens payent leurs impôts. Mais on parlera tout à l'heure de l'impôt sur le revenu, où il y a aussi, à mon avis, de belles marges de progression.
Ce que je voudrais, c'est voir si tout ça, ça donne des idées à Nougine, puisque pour toi, ça serait dans 3 ans. Donc imagine si dans 3 ans, tu reçois, tu as la possibilité, est-ce que tu accepterais de recevoir ces 60 000 euros?
Oui, et je pense que ça va changer peut-être ma manière de vivre au quotidien, puisque j'aurai peut-être moins stress concernant tout ce qui est argent et davantage de stabilité. Et je le vois que c'est une forme aussi de, voilà, comme je viens de dire, de stabilité, peut-être pour concentrer sur des projets professionnels, sur des études, sans penser vraiment à cette, ce stress financier.
Est-ce que tu peux dire, si tu veux bien, en quoi ça se traduit, ce stress financier, dans ta vie d'étudiante ?
Moi, personnellement, en tant qu'étudiante, à ce moment-là, je travaille aussi à côté. Donc,
t'es obligée de cumuler.
Ouais, je suis obligée. Donc, si peut-être un jour, je recevoir un revenu de base, peut-être je vais préférer de concentrer sur mes études au lieu d'aller, par exemple, travailler au moment où je fais mes études. Donc, peut-être ça, mais...
Déjà, ça pourrait... Ouais. Et est-ce que tu as déjà une idée de projet professionnel qui pourrait bénéficier de ce petit booster?
Pour l'instant, pas du tout, mais peut-être ça va arriver avec le temps. Hein.
Oui, en tout cas, ce que j'entends, c'est que c'est une idée qui peut mûrir doucement, oui, au fil des études. Et,
oui, c'est ça.
Est-ce que ça t'inspire, Denis?
Alors, beaucoup de choses. Effectivement, ça paraît presque trop beau pour être vrai. Et donc, quand on pose comme ça la question de but en blanc, 60 000 euros qui donneraient l'impression de tomber du ciel, ce qui n'est pas vrai, c'est de l'argent confié, donc il faudra d'une certaine façon le rendre à la collectivité. Mais je comprends que les gens disent pas tout de suite « Ah ben oui, je vais en faire ça, ça, ça et ça ». Je crois important quand même de souligner que, je disais tout à l'heure, les inégalités patrimoniales sont beaucoup plus importantes que les inégalités de revenus. Et c'est vraiment vrai, notamment pour les étudiants. Moi, quand j'étais étudiant, c'était relativement facile de trouver des petits boulots, genre tenir une station-service la nuit ou la conciergerie d'un hôtel, ou voilà. Donc c'était relativement facile. Aujourd'hui, c'est quand même parce que le travail est devenu beaucoup plus réglementé, parce que il est aussi devenu une denrée rare. Voilà, le parcours des étudiants est devenu beaucoup plus difficile. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que effectivement, des tas de projets de création d'entreprise d'activités d'auto-entrepreneurs ne peuvent pas déboucher parce que le risque est vraiment trop important. Je crois qu'il faut aussi évacuer une objection spontanée qui est de dire « Oh là là, mais les jeunes vont flamber cet argent et du coup, ce sera de l'argent perdu pour tout le monde ». Il y a une réponse très simple à ça. L'expérience montre que les jeunes qui reçoivent une somme importante, soit parce qu'ils ont gagné au loto, soit parce qu'ils ont hérité, par exemple, à 30 ans ou un peu avant, une somme importante, mais non en exagéré, c'est-à-dire quelques dizaines de milliers d'euros, en tout cas moins de 500 000 euros, en font toujours, ou à 99%, un usage patrimonial tout à fait pertinent. Là où il y a des catastrophes, c'est quand ils reçoivent plusieurs millions d'euros. Très souvent, la Française des Jeux le dit elle-même parce qu'elle a suivi les parcours, au bout de 3 ou 4 ans, c'est une catastrophe. Parce qu'ils ont perdu la mesure de la valeur de l'argent. Mais quand on parle de sommes raisonnables, et là c'est quelques dizaines de milliers d'euros, l'objection « cet argent va être claqué, flambé » ne tient pas. Et elle tient d'autant moins que quand bien même un jeune déciderait, par exemple, de boire intégralement cette somme en quelques mois, la société en récupérerait sur la taxe sur les alcools, la TVA et les charges sociales payées par le barman 82 ou 83%. Et donc, je réfute absolument l'argument « Ah non, non, c'est pas réaliste, les jeunes ne sauront pas faire bon usage de cet argent. » D'abord parce que c'est pas le cas, et ensuite parce que même si c'était le cas, la société rentrerait dans ses fonds à 80%.
Je crois que Max avait une question.
Moi, j'ai une question un peu double, voire triple. En fait, vu qu'on est dans un monde où il y a 85% des héritages qui sont inférieurs à 100 000 euros, je me demandais à quoi correspondait réellement ce chiffre de 60 000 euros. Et si c'est effectivement une avance sur héritage, est-ce que ça ne vaudrait pas plus le coup directement de en fait, supprimer l'héritage au-dessus d'un certain montant pour répartir tout le reste à 26 ans ou plus tard, je ne sais pas. Mais en fait, quelle est la vraie égalité qui peut se diriger derrière la notion d'héritage ?
Alors, supprimer l'héritage, c'est intellectuellement une bonne idée, mais c'est totalement inaudible par la population française telle qu'elle est actuellement managée et coachée par la bolosphère et par des années de culte de la valeur travail et ainsi de suite. Moi, je serais partisan de dire que mourir sans le sou, c'est pas forcément un drame, c'est même un bon timing. Mais je suis conscient que c'est des propos qui sont totalement inaudibles par 95 ou 98% de la population. Nous avons tous, et je l'évoque aussi dans mon dernier livre auquel Virginie a fait allusion, nous avons tous quelque part l'impression que nous allons survivre dans la mémoire de nos enfants et petits-enfants par les biens matériels que nous leur laissons. Et c'est notre façon, que nous ayons des convictions religieuses ou pas, de rendre l'hypothèse de inéluctable de notre mort, de notre disparition, un peu plus supportable. Et donc je ne crois pas qu'on puisse sérieusement proposer à la population française de renoncer à l'héritage et de renoncer à cette transmission de biens matériels. Je peux me tromper, mais c'est vraiment ma conviction sur ce point.
On pourrait le limiter juste à une maison. Hein,
Par contre, faire en sorte que, indépendamment du patrimoine de leurs parents, chaque jeune Français, y compris nouvel arrivant sur le territoire, parce que, évidemment, ce dispositif de dotation en capital bénéficierait à tous les jeunes qui en feraient les demandes, y compris des jeunes qui viennent d'ailleurs et qui viennent construire leur parcours de vie en France. Je signale d'ailleurs que ces jeunes-là, ayant suivi une scolarité ailleurs, n'ont rien coûté à la République de 0 à 20 ans, s'ils arrivent à 20 ans, alors que la République dépense 200 000 euros pour chaque jeune entre sa naissance et sa sortie du parcours scolaire. Et donc, confier à des jeunes migrants qui veulent s'installer en France 60 000 euros qu'ils restitueront par la TVA, par les charges sociales qu'ils vont payer, et par leur participation à l'activité économique, ça serait finalement une bonne affaire. Ce serait 140 000 euros de moins que la scolarité qu'on avait payée s'ils étaient arrivés en France à la naissance. Et donc, j'aimerais aussi qu'on regarde cette problématique de l'immigration à travers le fait qu'il est nécessaire de donner aux jeunes qui veulent s'installer chez nous et dont nous avons besoin, y compris pour payer les retraites, c'est un retraité qui vous parle, et y compris pour payer les dépendances, c'est un futur dépendant qui vous parle, eh bien, il faut faciliter leur parcours de vie et il faut évidemment que ces jeunes migrants soient parmi, s'ils le désirent, les bénéficiaires du dispositif de dotation en capital.
Je crois qu'on peut renvoyer aussi les auditeurs. Il y a un excellent passage dans ton livre où tu réussis à prouver que l'immigration est une richesse pour la France, surtout aujourd'hui que les femmes françaises ne font plus que 1,6 bébé. Honte à elles, en tout cas, si on écoute certains médias de droite extrême ou d'extrême droite. Et ta démonstration était vraiment très intéressante. Et j'ai envie de faire le lien aussi, puisque la première question de notre émission, c'est quelles sont les attentes sociétales finalement de cette dotation en capital. Donc on a déjà aborder un certain nombre de sujets. Ce qui est intéressant aussi, entre autres, hein, dans ton livre, au-delà de la forme très poétique et drôle, c'est quand tu précises que le ratio entre patrimoine et revenu a beaucoup changé depuis les années 70, où tu expliques que dans les années 70, il y avait 300% de revenus par rapport, pardon, 300% de capital par rapport aux revenus, qu'au début du 21e siècle, c'est passé à 400% et qu'aujourd'hui, on est à 600%. C'est énorme quand même.
Oui, alors c'est un peu technique, mais en fait, ça veut dire que dans les années 70, il fallait travailler 35 ans au salaire moyen en économisant 10% pour arriver au patrimoine moyen. D'accord ? Aujourd'hui, ce ratio est passé à 650%, ce qui veut dire qu'il faudrait travailler 65 ans. Les carrières font en général 45 ans, donc c'est déjà pas possible.
C'est déjà
au salaire moyen, en économisant 10% pour arriver au patrimoine moyen. Et donc, effectivement, l'écart entre les rémunérations et le patrimoine a évolué d'une façon surprenante et, à mon avis, non satisfaisante. Mais du coup, comme je suis un grand admirateur de Maurice Allais, Maurice Allais est un prix Nobel d'économie, qui disait dans les années 80 qu'on pouvait supprimer l'impôt sur le revenu et le remplacer par un impôt sur le capital, sur les possessions, et qu'il fallait pour ça taxer les possessions à 2%. Bon. Aujourd'hui, les ressources de l'État sont essentiellement basées sur la TVA, donc un impôt sur la consommation, sur l'impôt sur le revenu et sur l'impôt sur les sociétés, et très très peu sur les possessions. Il y a les taxes foncières et puis un peu de droits de mutation à titre gratuit ou à titre onéreux. Et ça veut dire que si on reprend ce qu'a écrit Maurice Allais il y a une quarantaine d'années, là où il fallait taxer les possessions à 2%, 1% suffirait. Et ça me paraît extrêmement intéressant par rapport aux revenus de base. Et donc, je quitte un instant le sujet des dotations en capital en faveur des jeunes et des moins jeunes, mais bon, ça, il faut aller voir le site aiq.fr pour les précisions, pour aborder la problématique du revenu d'existence, du revenu de base. J'ai la conviction que le principal obstacle intellectuel à la mise en place d'un revenu de base en France est que, avec la fiscalité actuelle, ce revenu de base serait essentiellement payé par les classes moyennes. En d'autres termes, distribuer un revenu de base financé par l'impôt sur le revenu reviendrait à déshabiller Pierre pour habiller Paul, alors que Pierre et Paul, l'un et l'autre, oscillent de façon aléatoire entre la catégorie précaire et classe moyenne. Et donc, mon analyse, et qui n'engage que moi à ce stade, c'est de dire que pour créer les conditions de l'acceptation d'un revenu de base en France, il faut commencer par suivre, en le réactualisant, le conseil que nous avait donné Maurice Allais. Il faut supprimer l'impôt sur le revenu et le remplacer par une taxation des possessions. Si on fait ça, on peut aboutir à ce que les parcours de vie soient extrêmement facilités, parce que, au-delà du problème des étudiants dont on parlait tout à l'heure, en fait, les années les plus difficiles sur le plan économique, c'est 20 à 30, 30 à 40, et un peu moins 40 à 50 ans. Et c'est la période où les gens ont des enfants, ils en ont malheureusement de moins en moins, ce qui nous pose des problèmes sociétaux, mais c'est à ce moment-là, dans ces périodes de vie-là, qu'ils ont besoin d'un maximum de pouvoir d'achat pour eux et pour leurs enfants. Et l'impôt sur le revenu va à l'inverse de cette demande-là, de cette nécessité-là. Et comme on peut assez facilement le compenser par une ponction à la limite relativement faible et tout à fait tolérable sur le patrimoine mobilier, il y a 11 000 milliards d'euros en France, le patrimoine immobilier, pardon, et par complément, c'est un peu technique aussi, non pas sur les valeurs immatérielles, parce que quand quelqu'un possède quelque chose, une ligne comptable, il y a une dette en face, et donc dire qu'on va taxer les biens immatériels, on va taxer une somme nulle, mais il serait techniquement possible de taxer annuellement la valorisation de chaque ligne comptable immatérielle. Donc là, c'est bon. Je vais pas entrer trop dans les détails, mais ma conviction est que on pourrait s'organiser d'une telle façon que les prélèvements soient d'un montant plus important, mais soient faits de façon plus judicieuse et au meilleur moment dans les parcours de vie, pour que la vie en société soit à la fois plus facile et plus harmonieuse.
Du coup, juste pour être sûr de te suivre, est-ce que ça rejoint l'idée que tu développes encore dans ton livre, que la taxe Tobin n'est plus vraiment réaliste à cause de, du trading haute fréquence, et que du coup le fait de taxer à partir de tous ceux qui sont beaucoup payés pour améliorer les patrimoines des autres, taxer la plus-value qu'ils réussissent à faire, donc à partir de la création de valeur finalement, que ces gestionnaires de fonds créent d'année en année, et d'y mettre justement de la TVA, celle qu'on paye sur nos produits de tous les jours finalement.
Oui, alors effectivement, ça c'est un sujet qui me passionne également. J'ai écrit en 2009 un petit livre qui s'appelle « Et s'il suffisait ?» et qui a été suivi en 2014 par un autre bouquin intitulé « Bref, essai de thérapie économique de groupe ». Et dans ces deux petits bouquins, je développe l'idée que l'échange qui a été obtenu dans les années 70 par le secteur banque-assurance, qui a été obtenu par des lobbyistes extrêmement performants et arraché à des politiques un peu naïfs à mon époque, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à échanger de l'assujettissement à la taxe sur les salaires contre l'exonération de TVA. Et l'exonération de TVA, ils l'ont obtenue en disant « oui, c'est très compliqué, on a beaucoup d'écritures, donc voilà, et on vous propose donc de pas payer la taxe là-dessus. Par contre, on va payer 10% de plus de charges sociales. » Et à l'époque, dans les banques, il y avait des comptables avec un crayon, une gomme, les premières calculatrices. Quand on avait besoin d'argent, on allait avec son chéquier en agence, on se faisait un chèque à soi-même, les écritures étaient faites dans la banque, donc les banques occupait beaucoup de personnel. Et dans les années 70, cet échange était équilibré. Depuis, le produit net bancaire a explosé, la masse salariale du secteur a fondu comme neige au soleil, et ce deal qui était équilibré à l'époque est devenu complètement déséquilibré. Et moi, j'ai la conviction qu'on aurait collectivement intérêt à revenir sur cet échange et à dire aux banquiers, eh bien, payez une taxe de 20%, comme le plombier du coin, sur les valeurs que vous prétendez ajouter à l'économie, enfin, que vous ajoutez et que vous présentez. Et ça aurait l'avantage de protéger cette profession contre ses propres turpitudes, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gestionnaires de fonds, asset managers, qui enjolivent leurs comptes pour garder leurs souscripteurs et pour en attirer de nouveaux. Ils ont même inventé les véhicules de compte. Continuation qui sont encore plus dangereux à terme, à mon avis, que les produits dérivés. Et donc, ces gens-là, s'ils devaient payer 20% réellement des valeurs qu'ils ont créées virtuellement, je pense que ça les calmerait, ça éviterait des acrobaties financières qui peuvent déboucher sur des opérations de type Madoff, ça irait vraiment dans le bon sens pour tout le monde. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on a aujourd'hui un système de... Il faut que l'État vive. Mais pour vivre, il prélève le maximum de son argent sur les gens qui en ont le moins, qui en ont besoin pour vivre, et au plus mauvais moment de leur parcours de vie. Il y a une fable qui consiste à dire que un précaire qui vit dans la rue est taxé à 80%, puisque est taxé à 20% sur tout ce qu'il consomme. Les classes moyennes payent la TVA et très vite l'impôt sur le revenu, puisque la tranche à 11% commence pratiquement au seuil de pauvreté et se termine au salaire moyen. Les gens riches payent des comptables, grâce aux 370 niches fiscales, ils ne payent pas tant d'impôts sur le revenu que ça. Les gens très riches payent des avocats qui leur permettent d'optimiser justement l'exploitation des 370 niches fiscales. Et les gens hyper riches, on dit qu'ils payent les politiques. Non, ils les invitent à dîner et ils discutent longuement avec eux.
C'est pas cher.
Et donc, par rapport à ça, pour moi, clairement, taxer les possessions pour les biens immobiliers et l'accroissement de valeur des biens mobiliers chaque année, avec un taux à 20%, à 1% pour les biens immobiliers et à 20% pour les créations de valeur, ce serait vraiment nécessaire et suffisant pour, un, remplacer l'impôt sur le revenu des personnes physiques dont on a vu toutes les
limites,
tous les dysfonctionnements ou tous les aspects négatifs, et deux, financer un vrai revenu de base qui serait à hauteur de 1 000 euros par mois sans aucun problème. Mais ça, c'est tellement extravagant par rapport au discours actuel et notamment au discours qui est véhiculé par la blogosphère, que on peut pratiquement pas le mettre dans un précis d'économie. Il faut d'abord s'adresser à l'imaginaire, et c'est pour ça que j'ai écrit « Cher Boomer, il est temps de réparer nos erreurs » aux éditions Le Prêt du Plein, et disponible soit en librairie, soit en version électronique, c'est le site de l'éditeur, merci pour la pub. Parce que je pense que on est tellement loin, la population française a été tellement conditionnée sur le fait que l'impôt sur le revenu était quelque chose de naturel et d'incontestable. Je rappelle d'ailleurs que c'est un impôt qui a été inventé en 1914 et mis en place en 1916 pour participer à l'effort de guerre. À ma connaissance, la Première Guerre mondiale s'est terminée en fin 2018, enfin 1918, pardon. Oui. Enfin 1918, mais l'impôt sur le revenu a perduré, alors qu'il n'avait plus de raison d'être. Et pourtant, cet impôt, on en voit toutes les limites et toutes les incohérences.
Denis, je te propose qu'on offre une petite pause digestive après toutes ces notions économiques grâce à Max.
Eh bien, on va passer sur une petite blague, c'est l'héritage de Coury. Vous allez apprendre tout ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas toucher un héritage. C'est parti.
Elle avait 92 ans, un peu gâteuse, plus une dent. Je grimpais 5 ou 6 étages, sans ascenseur, j'étais en âge pour rendre visite à cette tante. C'était pas vraiment de la détente d'aller 2-3 fois par semaine en bus à Épinay-sur-Seine. Fallait se taper son tébouille et ses gâteaux un peu moisis et ses montées de nostalgie. Tantôt De Gaulle, tantôt Vichy, elle m'appelait mon pauvre Jean-Marc. Me faisait plein de petites remarques sur le travail et sa valeur. Elle savait bien que j'étais chômeur, elle trouvait mes vestes négligées et mon parfum effet. Elle qui puait la naphtaline et aussi les relents d'urine. Elle achète des gaz nucléaires, appelait ça de l'aérophagie, tout en avalant quelques glaires. Vive la gérontologie. Et fallait supporter tout ça, baisser les yeux, se tordre les doigts, faire des sourires, grincer des dents, jouer aux garçons et repentant. Quand j'y pense que j'en ai pas lavé, j'ai même été jusqu'à laver dans un lavabo une alaise. J'ai failli avoir un malaise. Tout ça pour toucher le jackpot, toucher l'héritage et merde, zut et crotte. Et fini d'être sage, comme disait ma mère. C'est une vieille bique, elle vit dans la misère, mais elle est pleine de fric. Je voulais toucher le jackpot, toucher l'héritage et merde, zut et crotte. Et bisque, bisque, rage, elle assis sur un tas de pognon, moi dans les dettes jusqu'au menton. J'aurais bien été la nature de quelques gouttes de cyanure. « mais un dimanche de novembre, alors que dans sa froide chambre, elle me parlait de mes parents, me disant que c'était de feignants. Soudain on frappa à la porte, bon sang que le diable l'emporte, c'était ma cousine Clémence. J'avais donc de la concurrence, Clémence attaque à la première, jetant dans la conversation des détails sur mes pires travers et mon penchant pour la boisson. Je répliquais immédiatement, énumérant toutes ces liaisons, comprenant que l'on jouait perdant. Nous fîmes donc une association, tout ça pour toucher le jackpot, toucher l'héritage et merder sur tes crottes et finir être sage. Comme disait ma mère, c'est une vieille bique, elle vit dans la misère mais elle est pleine de fric. Je voulais toucher le jackpot, toucher l'héritage et merder sur tes crottes et bisque bisque rage. Elle assise sur un tas de pognon, moi dans les dettes jusqu'au menton. J'aurais bien aidé la nature de quelques gouttes de cyanure. Clémence et moi avions la rage, nous fîmes tout ce que nous pûmes. Je baissais discrètement le chauffage pour que la vieille tante attrape un rhume. Puis j'apportais des pâtes de fruits et des griottes dans l'alcool, des chocolats et mon chéri pour booster son cholestérol. Ma cousine elle venait avec de dégueulasses petits bonbecs du genre bêtises de Cambrai, ça peut se coincer, on sait jamais. Enfin le miracle arriva, la vieille mourut d'une angine et ce fut bien la première fois que je pris dans mes bras ma cousine. On allait toucher le jackpot, toucher l'héritage et merder sur tes crottes et finir être sage. Comme disait ma mère, c'est une vieille bique, elle vit dans la misère mais elle est pleine de fric. On allait toucher le jackpot, toucher l'héritage et merder sur tes crottes et finir être sage. Je me voyais bien en actionnaire toute l'année au bord de la mer. Vive la débauche et la luxure, vive les grosses voitures. Quand le notaire ouvrit l'enveloppe et qu'il nous dit qu'on n'avait rien, ce fut un cri du cœur, salope. Mais où a-t-elle mis nos talbins? Elle avait versé la totale, tout l'ensemble de sa fortune au patron du Front National. On n'aurait donc jamais une thune. Je ne revis plus jamais Clémence au fin fond du nord de la France. Elle retourna à tout jamais se repentir de ses méfaits. Moi, ça va, je m'en suis remis. Et puis j'ai des occupations, le mercredi et le samedi je visite mon oncle Gédéon. Je m'en vais toucher le jackpot, toucher l'héritage et merder sur tes crottes et finir d'être sage. Et comme dit ma mère, c'est un vieux salaud, il vit dans la misère mais il est plein de pélo. Je m'en vais toucher le jackpot, toucher l'héritage et merder sur tes crottes, finir la vie en cage. Je vais lui piquer ses collections de timbres et de décorations. Et puis au pire il a un frère qui lui est bientôt sans.
Et voilà, c'était Coury sur les ondes de Radio Campus 106,6 pour ce Tous Essentiels consacré au revenu de base avec Virginie.
Et avec Denis Consigny aujourd'hui qui nous présente, alors principalement, il faut savoir qu'il participe aussi au mouvement français pour un revenu de base, à la réflexion sur l'instauration d'un revenu de base, donc comme on l'entend d'habitude, de distribuer à chacun et à chacune de sa naissance à sa mort suffisamment pour vivre, donc il est plutôt mensuel d'habitude. Donc là, il nous présente plutôt une version en termes de capital qui serait donnée à hauteur à peu près de 60 000 euros aux 25 ans qui les demandent. J'avais envie de relancer cette partie avec une notion que j'ai trouvée très intéressante dans ton livre, Denis. C'est que les retraités, en fait, qui sont aujourd'hui retraités, comme toi, par exemple, en 2025 en tout cas, leur patrimoine, ils l'ont construit à un tiers par leur travail et à deux tiers par la valorisation, parce que logement, parce qu'entreprise et que voilà, le bâti a gagné en valeur, ce qui est plus possible aujourd'hui, en tout cas plus du tout dans ces proportions-là. T'as parlé de notre longévité qui est plutôt une bonne nouvelle, mais effectivement qui fait que les héritages n'arrivent plus au moment où on se lance dans une famille ou dans une activité professionnelle. Et dans ton livre tu cites aussi que aujourd'hui si quelqu'un vit dans l'extrême pauvreté ou naît dans une famille en extrême pauvreté, il lui faudra 6 générations pour arriver à un revenu médian, donc la moitié de ce que tout le monde reçoit, c'est-à-dire 2 000 euros par mois. Donc je trouve que c'est intéressant. Enfin, il y a un moment donné, il faut redire ça, parce qu'on parle beaucoup des jeunes, forcément, dans cette émission, puisque ta version en capitale les cible particulièrement, et que tous les plus de 25 ans se disent bien que ce qu'ils ont vécu, ça n'a rien à voir avec le monde actuel dans lequel les plus jeunes grandissent. Je pense aux enfants, je pense à mes élèves adolescents à qui on demande de s'orienter, et aux deux étudiantes qui sont sur le plateau avec nous. Il n'y a absolument plus l'ascenseur social comme il existait de mon temps, moi qui viens de grands-parents prolo ouvriers du fin fond de Roubaix. Maintenant je sors à bac plus 5 et on a changé de paradigme, quoi. Donc je voulais témoigner un petit peu de ça à un moment donné, parce que je trouve que sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de jeune bashing. Oh, qu'est-ce que je parle jeune aujourd'hui. Il faut que je vous réinvite, les filles, hein, vraiment. Alors ce qui m'intéressait aussi par rapport à la dotation en capital, parce que j'entends déjà ceux qui vont commencer à faire des chiffres me dire: ah, mais c'est pas finançable, ça va nous mettre dans le bouillon, comme si on l'était pas déjà, et pour d'autres raisons. En fait, si j'ai bien compris, ton capital universel, tu prends pas l'argent quelque part, tu le crées exactement comme la BCE, la Banque Centrale Européenne, elle crée de l'argent à partir de rien et elle le détruit après, quoi, c'est ça?
Exactement, oui. Alors, c'est effectivement l'un des gros avantages du système des propositions de dotation en capital par avance voirie, par avance sur héritage, c'est que ça n'est pas de l'argent qui est emprunté ou qui résulterait d'un impôt. C'est juste un jeu d'équilibre, un jeu d'écriture à somme nulle sur le long terme. Exactement comme lorsque une banque prête de l'argent, elle ne prend pas l'argent du compte du client A pour le prêter au client B. Cet argent apparaît simultanément à l'actif et au passif de la banque. Et la banque a pour obligation de le détruire à proportion des remboursements qu'elle va constater de la part de son client. Elle s'enrichit juste avec le taux. La création de valeur, c'est le taux d'intérêt qui est appliqué entre le nominal du prêt et ce qui est remboursé. Pour les dotations en capital, ce sera exactement la même chose, puisque en contrepartie, la Caisse des dépôts, qui sera à mon avis le meilleur porteur possible de l'opération ou une autre entité, créera l'argent en tant que de besoin pour une tranche d'âge de 800 000 personnes, ça fait donc 48 milliards. Si tous les jeunes de cette tranche d'âge demandent de bénéficier du système, on aura probablement 70%, mais le problème n'est pas là. Donc l'argent sera créé, mais en face, il y aura 200 ou 500 ou 800 000 actes notariés qui garantiront finalement la restitution de cet argent. Et la seule obligation de l'entité qui portera l'opération, ce sera de détruire ses fonds propres pour faire face aux défaillances. Parce qu'il y aura des défaillances, il y a des gens qui vont mourir dans un accident de voiture 6 mois après avoir déclenché, avoir reçu l'argent. Bon, clairement, cet argent, on ne va pas le demander à leurs héritiers ou à leurs ayants droit. Et donc, ça, c'est de l'argent qui aura été perdu. L'entité qui portera l'opération devra détruire ses propres fonds propres, comme le fait la banque, pour rééquilibrer les comptes. Mais, contrairement à toutes les autres opérations que fait l'État, qui, par exemple le RSA, par exemple les allocations de logement, ça ne nécessite pas de lever un impôt ou d'emprunter quoi que ce soit à qui que ce soit, puisque s'il y a une contrepartie et que l'actif et le passif sont équilibrés. Et donc, c'est bien une création monétaire dédiée, ciblée, qui ne réclame pas ni impôt supplémentaire de la part de l'État. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que aujourd'hui, c'est les banques qui ont le privilège finalement de dire: voilà, je crée de l'argent parce que le client que j'ai en face de moi a un projet ou m'apporte des garanties qui me paraissent suffisantes et donc je peux lui accorder une ligne de 10 000, 50, 100 000 euros. Je sais ou je fais le pari qu'il va me les rembourser dans de bonnes conditions et que je n'aurai pas à détruire mes fonds propres pour réparer la casse. aujourd'hui, les projets sont financés non pas en fonction de leur intérêt économique, écologique ou autre, mais simplement en fonction des garanties qu'apporte l'emprunteur. Eh bien, cette création monétaire-là, dédiée aux jeunes, elle s'exonérerait du bon vouloir du système bancaire et ce serait donc une progression importante dans le domaine de l'égalité des chances. Donc l'aspect non nécessité d'impôts dits d'emprunt supplémentaire, on est déjà à 3 400 milliards, ça suffit, est vraiment l'un des aspects très importants de la dotation en capital. Un autre point du projet que vous verrez si vous allez sur le site www.aicu.fr, c'est que ça n'est pas limité aux jeunes de 25 ans. Thomas Piketty avait fait une proposition où lui, il voulait donner 120 000 euros à tous les jeunes le jour de leur 25 ans et il finançait ça par un radar fiscal à deux lames sur les possessions et sur les successions avec des taux à 90% qui faisaient qu'au bout de 10 ans, il n'y avait plus de milliardaires dans le pays. Le problème de le seul défaut finalement que qui m'a été présenté et auquel j'ai pas trouvé de réponse immédiate, mais je vais vous la donner, c'est le risque de créer une fracture sociale, une fracture patrimoniale entre ceux qui seront nés au bon moment et ceux qui seront nés trop tôt.
Mais oui.
Si effectivement à partir du 1er janvier 2030, tous les jeunes de 25 ans peuvent avoir droit à ce coup de pouce, eh bien ceux qui auront 26, 27 ou 28 ans vont dire mais non. C'est injuste, nous on n'y a pas droit et notre parcours économique sera beaucoup plus difficile. C'est pour ça que l'association AICU propose que ces dotations en capital soient accessibles à toute la population, mais d'une façon inversement proportionnelle à l'âge. Puisque notre espérance de vie statistique moyenne est de 85 ans, eh bien, quelqu'un qui a 25 ans pourra demander 60 000 euros, mais quelqu'un qui a 26 ans pourra demander 59 000 euros, quelqu'un qui a 30 ans pourra demander 55 000 euros, et quelqu'un qui a 80 ans pourra demander, s'il veut, 5 000 euros, toujours sur le même système d'avance-voirie. Et ça permet effectivement de répondre, par exemple, aux revendications des Gilets jaunes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode des Gilets jaunes.
Oui,
mais bon, en fait, ce sont des gens qui se sont retrouvés dans une impasse financière de entre 5 et 20 000 euros, sans avoir fait d'excès, sans avoir, voilà, mais simplement parce que l'augmentation des coûts de la vie, les exigences des ados ont fait que... Et ils ne trouvaient pas, ils ne trouvent d'ailleurs toujours pas, la façon de sortir de cette impasse financière dans laquelle ils sont. La seule solution qu'ils aient, c'est les crédits revolving. Et ça, sur le plan économique, c'est une erreur, parce que c'est une horreur, parce que les taux sont absolument dissuasifs. Et puis, dès qu'il y a un impayé bancaire, ils payent trois fois ou quatre fois la casse, et leur vie est devenue vraiment très compliquée. Eh bien, avec ce système d'avance sur héritage mobilisable à leur demande et cautionné sur ce qu'ils vont recevoir s'ils héritent un jour ou ce qu'ils se laisseront à leur descendance, c'est une façon de leur permettre de sortir de cette impasse financière et de leur donner ce ballon d'oxygène sans que l'État ne soit obligé ni de contracter de nouveaux emprunts, il en a déjà trop, ni de lever de nouveaux impôts. On est bien placé pour savoir que ça fait déjà très mal. Ça c'est vraiment un aspect important du système de dotation en capital tel qu'on l'a imaginé avec le bureau de l'association. Il est accessible à partir de la 25e année sous demande, mais on peut le demander à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Simplement, le montant est réduit à proportion de l'espérance de vie statistique résiduelle. Lorsque l'espérance de vie sera de 5 ou 10 ans de plus, grâce au progrès de la médecine, eh bien les sommes seront réactualisées. Mais on n'en est pas là.
Oui, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est ta comparaison avec l'argent qui serait le sang du corps social. Du coup, ça me fait un peu penser... ça serait un peu comme une dialyse finalement, c'est-à-dire qu'on aurait droit à du sang nouveau et riche qui nous permettrait d'échanger, de faire fructifier, de créer de la valeur sur notre travail, sur voilà, tout du long de la vie. Et après, le sang, une fois qu'il a servi à nos échanges, on peut le rendre. On n'a pas besoin d'en posséder beaucoup tout le temps, quoi, en fait.
Oui, alors ça, moi, je suis un lecteur fanatique de Léon Blois, un auteur du catholique, d'ailleurs, du début du XXe siècle, qui a écrit Le sang du pauvre. C'est un livre que je recommande vraiment, même s'il peut paraître un peu démodé ou ringard par certains aspects. Mais effectivement, le sang et l'argent est le sang de la vie sociale. Et chaque cellule de la vie sociale, donc chaque individu, doit en disposer d'une quantité comprise entre suffisante et surabondante. Quand on est dans cette fourchette, on a une vie sociale et des échanges qui sont relativement non violents et harmonieux. Quand on est en dessous de la quantité suffisante, on pose des problèmes à soi-même, évidemment, mais au reste de la société. Pourquoi ? Parce que, comme on n'a pas les moyens de s'acheter à manger et qu'il faut manger, comme on n'a pas les moyens de s'acheter, de se loger et qu'il faut se loger, et on va squatter ou on va participer à des circuits parallèles qui peuvent aller jusqu'au trafic de drogue parce que il faut bien survivre et que quand on n'a pas d'autres moyens, voilà. Et donc les cellules de corps social qui ne reçoivent pas suffisamment de cet argent sans de la vie sociale posent des problèmes à l'ensemble du corps social. Et à l'autre extrémité, les gens qui disposent de trop de cette quantité vitale, de cette substance vitale qui est l'argent, font un certain nombre de conneries, excusez-moi, mais ils prennent le contrôle des médias et ils
dévient des autres.
Ils distillent des idées absolument nauséabondes sous prétexte qu'ils se croient être investis d'une mission civilisatrice ou de ne sais quoi, ou alors ils vivent en ébriété énergétique, ils font une vingtaine ou une cinquantaine de voyages long courrier tous les ans. S'ils concordent voler toujours, ils le prendraient parce que ça leur ferait gagner 3 heures sur une traversée de l'Atlantique. Et ils sont les clients des voyages spatiaux et ils vont dépenser 200 000 euros ou 200 000 dollars pour aller passer une heure dans l'espace. Ce qui va avoir des conséquences environnementales absolument injustifiables pour les autres cellules du corps social. Et donc cette idée que l'argent est le sang de la vie sociale et qu'il faut faire très attention à la quantité dont dispose chacune des cellules du corps social, même si elle est un peu datée, si elle a... Alors, le premier qui a vu ça... Alors, c'est une longue histoire, mais Aristote en a parlé.
Denis, je suis désolée de t'interrompre, oui, parce qu'on n'aura pas le temps pour ta longue histoire. Il reste 2-3 minutes. Moi, ce que j'avais envie de saluer aussi sur le capital universel, c'est que ça s'accompagne d'une certaine confiance dans les jeunes, parce qu'après tout, c'est eux qui vont écoper de notre terre, en tout cas de ce qu'on leur laisse. Et je regarde les deux étudiantes qui nous accompagnent avec un air un petit peu désolé, je suis désolée d'avoir participé aussi à ça, même si c'était sans vraiment beaucoup de conscience, mais voilà, ça me semble aussi important qu'on leur redonne du pouvoir à travers cette dotation. Est-ce que tu peux en une minute nous dire le plus petit pas possible, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller vers ça ?
Sur confiance. Je pense qu'il faut effectivement faire confiance aux jeunes, mais aussi à tous les acteurs de la vie sociale. Considérer l'argent comme vraiment un moyen et pas comme une fin en soi. Comprendre qu'on dépense collectivement donc jusqu'à 200 000 euros pour former un jeune à travers l'éducation nationale qui fait un travail fantastique.
Oui, je suis d'accord.
Entre 2 et 20 ans. Mais que au sortir de ça, ceux dont la famille n'a pas de moyens significatifs se trouvent avec un capital culturel important qui leur a été offert par la société, et très bien, il faut le renforcer, mais sans aucun capital financier. C'est comme si on donnait, on apprenait des recettes de cuisine à des jeunes sans jamais leur donner accès au moindre fourneau. Et donc, il y a une complémentarité, à mon avis, entre le capital culturel qui leur est offert par la société et le capital financier qui va leur permettre de valoriser ce capital culturel dans de bonnes conditions et de commencer leur parcours de vie dans des conditions moins confortables que ce qu'on leur impose aujourd'hui.
Merci beaucoup, Denis, en tout cas, pour tout le temps et l'énergie que tu passes à ça. Je renvoie nos auditeurs RIS au site aicu.fr. Et évidemment, vous pouvez découvrir sur le site du MFRB, revenubase.info, d'autres versions pour compléter. Un grand merci à Nougine et Jeanne, et évidemment à Max qui s'occupe de la technique et qui nous trouve toujours des musiques extraordinaires.
Merci à toute l'équipe.
À très bientôt, Denis.
Bonne semaine à tous. Rendez-vous le mois prochain.
Essentiel, on est